Loup.
Dans cette édition, on reviendra sur la loi anti-plastique, comment ça se passe concrètement dans les roulottes et snacks. On parlera de sport avec les nouvelles délégations de services publics. Et enfin, cette question, à quoi servent les rêves ? Réponse dans quelques jours. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence avec cette attaque de requins aux Marquises.
Oui, avant de développer les titres, donc on parle de cette attaque de requins. C'est Polynésie, la première, qui nous apprend qu'un enfant de 7 ans a été mordu par un requin samedi sur l'île de Fatu-Hiva. Il était avec d'autres enfants en train de se baigner dans la baie de Hanavave quand il s'est fait attaquer. On écoute le maire Henri Touainoui qui nous raconte.
Il y avait trois requins qui étaient rentrés dans la darse, là. Parce que, donc, il y a une digue qui protégeait un peu la partie où il y a le quai, là. Et donc, c'était là. Et donc, du coup, il y avait un requin qui avait mordu, donc, le gamin de 7 ans. Il avait mordu au mollet, là. Et puis après, il a été évasané par voie maritime le soir même, hein, sur Atourna, pour être évasané par hélico sur Nukuhiva.
Et le Hakaiki de Fatu-Hiva se dit très étonné par cette attaque, la première dans la petite île des Marquises Sud. Pas d'antécédents et pas de facteurs pour expliquer cette attaque. Le maire précise même que des mesures ont été prises pour éviter d'attirer justement les requins dans les baies. On l'écoute.
On a mis des pancartes pour dire que aux gens de ne pas nettoyer le poisson sur les quais, que ce soit sur Anavavé ou sur Oman. C'était en prévision. On sait des fois qu'il y a des requins qui viennent à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a placé, on a prévenu les gens de faire attention.
C'est la troisième attaque aux Marquises en quelques mois, après un homme en novembre à Wapo, puis un jeune garçon à Hivaoa en décembre. Selon nos informations, le jeune garçon de Fatu-Hiva se rétablit bien.
Vous le savez, une nouvelle étape de la loi anti-plastique a été franchie ce 1er janvier. Alors concrètement, comment ça se passe ?
Eh bien, pour le président du syndicat des restaurants, Maxime-Antoine Michard, ça va demander un temps d'adaptation. Fini donc les assiettes, verres et couverts jetables, même en carton pour les clients qui mangent sur place. De la nouvelle vaisselle a donc fait son apparition sur les tables, mais ce n'est pas facile. Maxime-Antoine Michard reconnaît les avantages de la loi, surtout du côté de la production de déchets qui va forcément baisser. Mais elle a aussi ses inconvénients, une vaisselle chère à l'achat, qui peut facilement être volé, plus de dépenses en eau, en énergie et en ressources humaines pour le nettoyage ou encore l'utilisation de détergents.
Ça exige d'utiliser énormément d'eau sur une île où on sait que l'eau est une ressource qui est plutôt précieuse. Hein. Ça nécessite aussi d'utiliser pour certains d'entre eux du matériel de type la vaisselle industrielle qui consomme beaucoup d'électricité. Hein. Dans une île où justement l'électricité est relativement chère et utilise encore majoritairement des énergies fossiles pour être produite. Et puis l'autre impact, c'est aussi l'utilisation de détergents puisqu'on est obligé d'utiliser des détergents relativement puissants pour pouvoir nettoyer cette vaisselle dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaires.
Les restaurateurs doivent donc s'organiser. Certaines roulottes ont dressé des tentes supplémentaires pour abriter le stand de plonge. D'autres se sont réorganisés, boulot en plus pour les employés ou embauche de personnel. Chez McDo, que Maxime-Antoine Michard dirige, l'arrivée de la vaisselle réutilisable a été annoncée par une campagne d'affichage dans les restaurants. Du personnel en salle ramasse les verres, bols et barquettes de frites. Ces investissements et nouveaux coûts de fonctionnement pèsent sur les comptes. Maxime-Antoine Michard parle de 10 à 20% de coûts supplémentaires. Alors peut-être une surprise pour les clients, mais les patrons avaient prévenu de cette inflation au moment de la préparation de la loi.
Nous, on a mentionné ces éléments-là. Maintenant, le gouvernement, bien sûr, est libre de choisir d'en tenir compte ou pas. Et nous, de toute façon, en fonction de ce qui est décidé, on applique la réglementation sans aucun problème. Maintenant, ça a des impacts qui sont réels et dont il faut avoir conscience. Ouais.
Et la France avait été l'un des premiers pays au monde à voter l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable pour la consommation sur place. Une disposition de la loi anti-gaspillage entrée en vigueur en janvier 2023, mais 3 ans plus tard, elle n'est toujours pas entièrement respectée dans l'Hexagone.
On reste dans le commerce avec les chiffres des exportations polynésiennes au troisième trimestre 2025.
Et ils sont décevants. La perle, qui connaissait un excellent début d'année, a vu ses prix sur le marché baisser de près de 30% et ses ventes aussi. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, c'est tout de même mieux en 2025 qu'en 2024, avec plus de 6 milliards de francs de ventes à l'étranger. Les exportations de poissons et crustacés, elles, sont en sévère retrait. Et sur sur toute l'année. Les freins au commerce international de l'ère Trump sont passés par là, mais le niveau d'exportation ne veut pas dire que la filière pêche se porte mal. Les trois quarts des ventes se font sur le marché local. Les voyants sont au vert pour le noni, plus 23%, mais au rouge pour la vanille, moins 22%.
Les nouvelles délégations de services publics sportifs auraient dû être lancées le 1er janvier, mais ne le seront finalement qu'au mois de mars.
Oui, rappelez-vous, cette réforme souhaitée par le gouvernement et préparée par l'ancienne ministre Nahima Temari, l'idée était notamment de mettre fin aux conflits dans certaines disciplines, structurer le monde du sport, allonger la durée de délégation, donner une visibilité pluriannuelle sur les financements publics et obliger les associations sportives à s'affilier aux fédérations pour profiter de subventions. Ces nouvelles DSP auraient dû être lancées en janvier, elles le seront finalement en mars. Le ministère des Sports précise que le calendrier a été décalé pour que personne ne soit mis en difficulté. Les dossiers à rendre étaient effectivement complexes pour les fédérations, comme le raconte le directeur technique du comité olympique Eric Zorniotti.
Et cette année, c'est un peu plus compliqué que les autres années, puisque la DGS a voulu remettre à plat tout le système et donc ça a demandé énormément de travail administratif aux fédérations.
Et les fédérations ont eu à écrire leur projet fédéral, faire un état des lieux de leur discipline, donner leurs objectifs pour atteindre les missions de la DSP et elles sont nombreuses, 17 listées par la réglementation du pays. Le ministère sait que toutes ces missions ne seront pas remplies tout de suite, mais l'important est de connaître les ambitions et les projets de chaque fédération pour y arriver. Pour le ministère, ce sera mieux pour tout le monde, y compris pour nous.
En mars 2026, le ministère donnera la délégation de services publics aux fédérations qui auront déposé leur dossier en bonne et due forme. Et donc, il y a forcément des choix qui vont être très complexes. Pour la boxe, on sait très bien qu'aujourd'hui, la boxe est un vrai sujet. On a aussi l'escrime, voilà, des fédérations où des fois, ça pose des vraies questions. Mais il y a encore des fédérations qui doivent finaliser leur dossier, parce que ça demandait beaucoup de travail.
Voilà, une réforme donc pour y voir plus clair et surtout mettre fin une bonne fois pour toutes aux conflits dans certaines disciplines qui se retrouvaient avec deux fédérations concurrentes, comme dans la boxe ou l'escrime, comme vous venez de l'entendre. Les premières nouvelles DSP seront donc signées avant le 1er mars et pour 5 ans et demi pour aller jusqu'aux Jeux du Pacifique 2031. Ce sera ensuite des contrats de 8 ans qui seront établis pour couvrir deux cycles des Jeux.
On reste dans le sport avec l'enseigne Décathlon qui fait des petits.
Déjà 2 ans que le Décathlon de Punaouya est ouvert et l'ancienne sportive gérée par Maeva Sport et le groupe Buadjar a commencé effectivement à faire des petits. Une boutique adressée aux touristes en transit mais aussi aux Iliens et aux Tahitiens qui s'envolent pour les archipels s'est ouverte dans l'aérogare de Tahiti-Fa, les précisions du responsable de Décathlon en Polynésie, Simon Jeannequin, au micro de Charlie René.
Ouais, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir cette opportunité-là qui répond complètement à ce qu'on voulait faire sur le territoire en Polynésie française, qui nous permet en fait de venir toucher une clientèle qui aujourd'hui ne passait pas forcément sur Punaouya. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux magasins hyper complémentaires, avec une offre sur Punaouya sur 3000 m² et une boutique sur l'aéroport avec des clients qui peuvent être très différents. Et demain, on réfléchit à d'autres opportunités. On verra comment le marché se comporte et ce qu'on peut proposer, que ce soit sur les territoires sur Tahiti, à Moréa ou dans les îles.
Les deux premières années d'exploitation tiennent visiblement leurs promesses, même si la direction de Décathlon reconnaît un certain nombre de défis, comme l'approvisionnement par exemple. Et puis il y a eu des surprises, des choses qui se vendaient mieux que prévu et d'autres pas du tout. 25% de l'offre a dû évoluer depuis l'ouverture.
On parle de science cette fois-ci avec deux conférences, une sur le cerveau et une autre sur les algues.
C'est l'association polynésienne ProScience qui a invité deux personnalités du débat scientifique pour des conférences gratuites. La neuropsychologue du CNRS Sylvie Chocron qui proposera le 13 janvier un voyage au cœur du cerveau. À quoi servent et comment sont fabriqués les rêves? Comment fonctionne notre mémoire et comment l'entretenir? Comment la pratique de l'art, de la musique ou de la danse modifie notre cerveau? Voilà à quoi elle répondra. Et puis le 22 janvier, ce seront les algues au cœur du sujet. C'est Vincent Doumézel, auteur de l'ouvrage « Comment les algues peuvent sauver le monde » qui viendra parler du potentiel de ces organismes marins, que l'on parle d'alimentation, de médicaments, de cosmétiques, de substituts au plastique et aux fertilisants, de biodiversité ou de séquestration du carbone. Ces deux conférences organisées par ProScience sont gratuites. Elles se passeront à l'association philanthropique chinoise.
Culture pour terminer avec l'annonce des participants au prochain Eva Itaiti.
On compte 12 troupes de Ori Itaiti Tahiti et 12 groupes de Himene, Tahiti Ora, Temaeva, Otahiti et Toakura, grands vainqueurs en 2014, 2015, 2019 et 2023, seront en compétition chez les professionnels aux côtés de Pupuori Nonahere et Nunaeho. Et côté chant, on retrouvera notamment Tamari Tiperui, Tamari Tepeti no Parenui et Rapa Iti. Le Heiwai Tahiti 2026 doit se dérouler du 2 au 18 juillet à Toata. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, voici la météo sur Radio.